le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va parler de la journée mondiale de lutte pour les droits des personnes LGBTI+, puisque c'est demain, le 17 mai, qu'aura lieu cette journée mondiale. En ce moment, c'est donc la période des marches des fiertés partout en France, et je vais aujourd'hui prendre un petit peu de temps pour vous raconter un petit peu l'histoire des luttes des droits des personnes LGBTI+. Tout commence à peu près, en tout cas, notre histoire des droits des personnes LGBTI+, va commencer le 28 juin 1969 avec la révolte contre une énième rafle policière au Stonewall Inn, qui est un bar gay de Greenwich Village à New York et qui a marqué le point de départ d'un mouvement mondial pour l'égalité des droits des personnes homosexuelles et transgenres. Deux décennies plus tard, le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a officiellement retiré l'homosexualité de sa classification internationale des maladies, reconnaissant ainsi qu'elle ne constitue pas une pathologie mentale. Cette date est donc le pilier historique de la création en 2004 au Canada par la Fondation Émergence de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, célébrée pour la première fois le 17 mai 2005 afin de commémorer la dépathologisation par l'OMS. Jusqu'au début du 19e siècle, la reconnaissance légale des couples de même sexe s'est faite de manière fragmentée. La France révolutionnaire supprime la criminalisation de l'homosexualité dès 1791. Mais ce n'est qu'en 1989 que le Danemark inaugure les premiers partenariats enregistrés, puis qu'en 2001, les Pays-Bas autorisent le mariage. À ce jour, 39 États l'autorisent, dont Taïwan, pour la première juridiction asiatique en 2019 et la Thaïlande depuis le 23 janvier 2025. Malgré ces avancées, 62 pays membres des Nations Unies criminalisent toujours les relations homosexuelles consenties, auxquelles s'ajoutent deux États où la répression est appliquée de fait. Dans au moins 7 d'entre eux, la peine de mort reste prescrite pour ces actes. L'Iran, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Mauritanie, les parties du Nigeria, la Somalie et l'Ouganda. En Afrique de l'Est, l'Ouganda a promulgué en 2023 un Anti-Homosexuality Act d'une extrême sévérité qui sanctionne jusqu'à la chaîne à vie, tandis qu'en Tchétchénie et dans certaines régions du Nigeria du Nord, des détentions arbitraires et des tortures sont rapportées par les ONG. Dans la péninsule arabique, la criminalisation s'accompagne souvent de châtiments corporels ou de peines capitales, comme en Arabie Saoudite et au Yémen. Les violences ne sont pas que légales. Dans plus de 60 pays, des agressions ciblées, des assassinats et des persécutions quotidiennes forcent les personnes LGBTI+ à vivre dans la clandestinité, entravant l'accès à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Par contraste, l'Inde a aboli en septembre 2018 la section 377 de son code pénal, vestige colonial, privant ainsi le droit de réprimer les relations homosexuelles. En Amérique latine, l'Argentine, pionnière dès 2010, le Brésil, le Mexique et plusieurs autres pays ont généralisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, contribuant à positionner la région comme l'un des plus progressistes du monde. La reconnaissance juridique reste toutefois assez inégale puisque des unions civiles ou des partenariats enregistrés existent dans une dizaine d'États supplémentaires, mais sans homogénéité des droits en matière de pension, de scolarité ou d'accueil médical. Le combat ne se limite donc pas au mariage. Le phénomène des thérapies de conversion visant à modifier l'orientation sexuelle perdure. Si 28 pays interdisent désormais ces pratiques, dont 14 couvrant tous les professionnels de santé, la plupart des États n'ont aucune législation protectrice, exposant encore des milliers de personnes, souvent mineures, à des traitements cruels et inefficaces. En matière d'égalité de traitement, seuls 6 pays n'offrent aucune protection contre la criminalisation fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ces dernières années, un reflux s'observe même dans certains pays dits avancés, des lois de propagande anti-LGBTI+, en Russie, la qualification de mouvements extrémistes de toute association LGBTI+, par la Cour suprême russe, et l'interdiction de l'accès aux soins transgenres dans plusieurs États américains, démontrent que le droit acquis peut rapidement être remis en cause. Le choix du 17 mai pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie n'est donc pas arbitraire. Il fait écho à la fois à la date historique du retrait de la classification comme maladie mentale par l'OMS et à la première mobilisation internationale accordée pour défendre les droits fondamentaux des personnes LGBTI+. À travers le monde, associations, militants et militantes et institutions rappellent chaque année la nécessaire vigilance face aux lois restrictives, aux violences quotidiennes et aux discours de haine. Cette journée incite également à célébrer les progrès qui ont été réalisés et à s'inspirer des exemples positifs, tout en gardant en mémoire le chemin encore long à parcourir pour garantir l'égalité réelle, loin des discours révolutionnaires et au cœur d'un engagement citoyen constant. Pour la petite histoire, suite aux émeutes de Stonewall, deux grands mouvements sont nés aux États-Unis, à New York, et c'est principalement les personnes trans, les personnes qui font du drag, donc les drag kings et les drag queens, les travestis, qui ont essayé de faire valoir leur voix à travers des manifestations et beaucoup d'événements qui essayent de promouvoir les droits des personnes LGBTI+. On a ensuite une petite transformation du mouvement qui inclut de plus en plus les personnes homosexuelles et qui va un petit peu s'embourgeoiser au fil du temps et créer plusieurs associations qui concernent principalement les droits des personnes homosexuelles. Les trans et autres queers vont être un petit peu oubliés du mouvement à ce moment-là pour donner place à beaucoup plus de personnes, puisque en fait la communauté gay était plus conséquente à ce moment-là à New York. De cette manière-là, on va commencer à avoir aussi toutes les luttes pour la santé, qui concernent la santé sexuelle, donc notamment la crise du sida. Et ça va permettre encore une autre mobilisation qui concerne aussi les médecins et pas seulement que les homosexuels, puisque le sida, ça touche tout le monde et pas uniquement les homosexuels. Le mouvement va se réunifier quelques années plus tard, dans les années 90, afin de prendre en compte absolument tout le monde dans la communauté LGBTI+, et depuis, elle s'agrandit de plus en plus à travers les différents marqueurs identitaires et de relations sexuelles qu'il peut y avoir dans cette communauté. Aujourd'hui, elle est présente partout dans le monde, même si elle est souvent réprimée, et c'est pour ça qu'on a les marches des fiertés. C'est aussi pour pouvoir marcher à la place des personnes qui ne le peuvent pas et revendiquer leurs droits, parce qu'elles ne le peuvent pas. Si vous n'aimez pas marcher, vous pouvez toujours aller sur notre site amnestyinternational.fr pour signer les pétitions qui sont en rapport avec les droits des personnes LGBTI+. Il y en a un petit peu partout dans le monde, des problématiques qui sont liées à cette situation. Donc je vous invite à aller consulter notre site et signer des pétitions en l'honneur de la journée mondiale pour les luttes pour les droits des personnes LGBTI+. Je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.